week-end, c'était le 25e anniversaire de la Fiesta des Suds au DOC. Nos micro-baladeurs ont passé 10 minutes avec La Chegros, nouvelle diva de l'électro-cumbia. Un petit entretien où nous sommes rentrés dans la discothèque de la chanteuse argentine pour découvrir son univers et ses racines musicales. Un grand merci à Fanny Oyer pour la traduction. Pour commencer, La Chegros, quel est le dernier disque que tu as acheté?
El último disco que compré es muy bizarro. Bizarro para nosotros es como gracioso y raro a la vez.
Le dernier CD que j'ai acheté, c'est très bizarre. Enfin, c'est drôle et étrange à la fois. J'ai trouvé un vinyle de Tina Turner, une chanteuse que j'aime, et je l'ai acheté juste pour la photo, parce que le vinyle était très vieux et ne fonctionne pas. Mais voilà, c'est le dernier disque que j'ai acheté.
C'est l'último que compré hace poco.
Te souviens-tu du dernier disque que tu as écouté aujourd'hui ou hier?
Justement, tout à l'heure avec le groupe, on a écouté le disque de L'Indigo, qui est un ami de La Réunion et avec qui on était il y a quelques jours, et sa chanson nous est restée dans la tête.
Pour toi, quel est le disque qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir?
Personnellement, je suis une grande admiratrice de King Kocha, alias Gary Carpel, qui est mon producteur. Pour moi, c'est un grand artiste qui a été le précurseur, qui a mélangé, il y a de ça 30 ans, la musique folklorique et l'électro. Moi, j'adore ce qu'il fait et il mérite plus de reconnaissance que celle qu'il a. Et j'aimerais qu'il soit davantage reconnu, notamment pour son disque Cannabalito, dont j'ai fait une reprise dans mon dernier album. Pour moi, c'était une manière d'honorer ce disque qui devrait avoir davantage de reconnaissance. Il a été fait dans les années 2000 environ, et donc, il y a presque 20 ans, il mélangeait déjà de la musique électronique avec du folklore. C'est pour ça qu'il a besoin de plus de reconnaissance, et j'espère qu'il l'obtiendra dans le futur.
Quel est le disque que tu as le plus écouté dans ta vie ?
J'ai écouté énormément de disques, mais justement aujourd'hui, je discutais avec mon percussionniste et je lui racontais que lorsque j'ai écouté à 13-14 ans les Beatles et John Lennon, je suis devenue fanatique et je me souviens que mes parents écoutaient à l'époque de la cumbia ou du chamamé, une musique bien traditionnelle argentine, et je voulais qu'ils écoutent et découvrent John Lennon, mais ils ne le faisaient pas. Et moi je l'écoutais sans m'arrêter. Et pour moi, c'est ouvert un monde, une connexion avec la musique qui est très profonde. Donc oui, j'ai surtout beaucoup écouté John Lennon.
Quel est le disque majeur de ta jeunesse?
J'écoutais et j'aimais beaucoup Michael Jackson, surtout la manière dont il dansait. Après, il y avait de la musique de mon pays, du rock. Il y a un rock que j'aimais beaucoup, celui de Charlie Garcia, un rocker qui a maintenant 60 ans et qui faisait des chansons militantes. À l'époque, il y avait beaucoup de problèmes politiques et lui, il manifestait beaucoup avec sa musique. Voilà, j'aimais beaucoup Garcia, Spinetta.
Björk, me gustaba muchísimo.
En musique étrangère, j'adorais Björk et je l'aime et la suis toujours. J'apprécie aussi beaucoup la cumbia, un goût qui me vient de mes parents, avec le chamamé, qui est un style musical plus traditionnel. J'avais plein de styles de musique différents, et il n'y en a pas qu'un.
Me gustaba, digamos, diversas canciones, no estilos, no solamente uno, ¿no?
La región de tus papás está cerca de la frontera brasileña, ¿no?
La région où vivent tes parents est proche de la frontière brésilienne. La musique brésilienne t'a-t-elle donc influencé?
La música brasileña.
Oui,
j'ai une histoire très particulière avec le Brésil. Quand j'allais en vacances dans la région de mes parents, à Misiones, vu qu'on avait de la famille au Brésil, on allait leur rendre visite. Et à chaque fois qu'on traversait la frontière brésilienne, on écoutait le portugais. Et quelque chose se passait en moi et m'a sensibilisé à cette langue. Et quand on revenait en Argentine, je pleurais beaucoup, sans comprendre pourquoi. Je sentais que j'étais en train de laisser quelque chose de moi. Et à chaque fois que j'y allais, il se passait la même chose. Jusqu'à ce que, quelques années avant que mon grand-père maternel ne meure, il a confessé à ma mère qu'il n'était pas son père, et que son père était un Brésilien. Et donc, que voilà. D'une certaine manière, je crois que je sentais cette connexion, et que je ne savais pas quelles en étaient les raisons. Et donc on a découvert que mon grand-père était brésilien. Donc bien sûr, pour moi, il y a des racines très fortes qui me connectent avec mes ancêtres brésiliens et j'aime ce pays. Il est merveilleux. Il y a des racines africaines très fortes dans la musique brésilienne auxquelles je m'identifie beaucoup. Et donc je suis heureuse de comprendre pourquoi je me suis toujours sentie connectée avec le Brésil, mais aussi avec Misiones et le nord de l'Argentine. Parce que je sens que là-bas sont mes racines et mes origines.
Porque bueno, siento que ahí están mis raíces, mis orígenes.
Señora Chichera, señora Chichera. Les Dizzy Brands, ça veut dire d'abord l'idée générale du nom, ça a été repris. C'est pas repris, mais on a reçu l'idée, moi et mon frère, au moment où on a écouté un morceau de Jacques Dutronc. Et je sais pas si vous avez vu des morceaux de Jacques Dutronc et sur scène, mais c'est un fou, quoi. C'est un cinglé sur scène. Il danse comme il veut, il chante comme il veut. La chanson, ça monte et ça vient. C'est un truc de fou, quoi. Et on s'est dit, c'est un génie et c'est un Dizzy. Et c'est là que mon frère a ajouté juste le mot Brains. En même temps, au fil du temps, on s'est dit que ouais, ça colle bien à tout ce qu'on au rock qu'on va faire, parce que d'abord, le pays nous étourdit tellement. Tout ce qui se passe dans le pays, dès que tu sors de chez toi, il y a un truc qui te claque à la tête et ça. Voilà quoi, c'est l'étourdissement total. Et Dizzy Brains, ça veut dire le cerveau étourdi, c'est tout.
The Dizzy Brains, révélé lors des dernières transmusicales de Rennes, le groupe de punk malgache électrise toutes les scènes de France depuis le printemps. Ils ont étourdi le public du cabaret ce vendredi, et notamment leur sing leader Eddie, au torse nu et au déhanché androgyne qui nous rappelle un certain Iggy. Quelques heures avant de monter sur scène, Eddie nous a retracé l'histoire des Dizzy Brains et la révolte qu'ils expriment face à la situation à Antananarivo, leur ville. Une capitale où la pauvreté conjuguée à la violence peuvent rendre ces nuits hostiles. Après des années de galère à jouer dans des caves sans toucher le moindre centime, les Dizzy Brains savourent chaque concert en France comme si c'était le premier. Ou le dernier.
Il n'y a pas de dernier concert ou de deuxième concert ou troisième concert, mais c'est toujours le premier concert. Donc du moment qu'on se dit que c'est notre premier concert, il faut toujours arracher les poils du corps et donner le maximum, quoi. Jouer en France, pour nous, c'est ça a toujours été, ce sera toujours un truc incroyable pour nous, parce que ce n'est qu'ici qu'on a pu aider nos parents. Et là, je dis ça franchement, c'est... À la maison, j'ai 26 ans, je vis encore chez mes parents. J'avais rien du tout, j'avais pas de boulot, j'étudiais pas et je faisais juste de la musique. Mon père me disait même, arrête ça, tu fous rien de ta vie et tout. Là, j'ai pu le prouver aux gens, à la famille surtout en premier, que voilà, je peux vous aider, je peux un peu améliorer votre vie. Et ce n'est qu'ici qu'en France que j'ai pu faire ça. De toute façon, nous, au moment où on rentre toujours à Mada, comme par exemple, il y avait mon père qui me disait sur Facebook « Rentrez pas les mecs, parce que ici la vie est dure, restez là-bas, faites tout pour rester là-bas », c'est ce qu'il a dit. Et moi, je lui ai dit « Non, moi, je veux rentrer, je veux vous voir et tout ». Mais le sens de sa phrase, c'est vraiment que le pays est en galère, vous n'avez plus votre place ici à Madagascar. Et ça m'a touché parce que voilà, c'est... La vie est dure là-bas et au moment où on rentre là-bas, tout de suite, dès l'aéroport, comme la première fois on était rentré au des transmusicales de Rennes, il y avait la police qui nous cherchait à l'aéroport. Ils voulaient nous coffrer parce qu'avec tout ce qu'on a dit sur Mada ici en France, ils ont jugé ça irrespectueux, je sais pas, un truc comme ça. Et heureusement, il y avait une foule carrément qui nous attendait et ils n'ont pas osé en quelque sorte pour nous coffrer, heureusement. Mais là, après cette tournée, je m'attends vraiment à ce qu'il se passe un truc entre la police et nous, en fait. Je m'attends et c'est pas que j'espère, mais j'ai peur. J'ai peur qu'il se passe un truc. Je ne sais pas quoi, mais voilà. Moi, j'espère en tout cas pouvoir vivre ma vie à Madagascar, mais après, je sais pas, la vie nous le dira, mais j'espère vraiment vivre là-bas et toujours continuer à composer pour mon pays. C'est pas contre mon pays, mais pour mon pays. En fait, tout ce qu'on dit à la base, quand on le décortique bien, phrase par phrase, tout ce qu'on chante et tout sur scène, c'est pas juste pour Madagascar, c'est vraiment pour tous les pays qui sont, pour l'Afrique surtout. Je dirais pas le mot et la phrase, mais voilà quoi, l'Afrique c'est l'Afrique quoi, tout le monde connaît l'Afrique. L'Afrique est vraiment comme Madagascar et comme d'autres pays et ça englobe plein de pays en fait, tout ce qu'on chante et voilà. À Madagascar, les jeunes n'écoutent pas du tout du rock. Bien sûr, il y a du rock, il y a des jeunes qui kiffent le rock, mais leur rock à eux, c'est carrément du rock FM, quoi. Ce genre, je t'aime mon amour et quelques pop à la radio, mais les trucs qui arrachent, le punk et tout, ça, c'est pas aux oreilles des jeunes du tout et ça va jamais invoquer un vent de révolte à Madagascar. Jamais. Moi, perso, je me dis que non, jamais ça va changer les jeunes, en tout cas. Mais ce que j'espère, juste moi, en tant que Dizzy Brands, en tant que D, personnellement, c'est qu'il y a des gens haut placés qui pourraient entendre nos messages et notre colère, notre envie, et qui pourraient un peu changer les choses, c'est tout. Mais moi, côté jeune à Madagascar, j'ai pas d'espoir. J'ai pas d'espoir.
Quand vous êtes arrivé au Trans, ce premier concert en France, tu disais que vous aviez rien à perdre. Là, au fil des concerts, au fil des tournées, qui sont de plus en plus grandes, à rallonge, comme ça, le succès qui s'emballe, vous avez l'impression que là, vous avez un peu plus à perdre, ou en tout cas sur le prochain album, carrément plus à perdre. Et que ça aussi, ça peut aussi contrarier cette fraîcheur et cette révolte qui est en vous.
Pendant notre carrière, et j'espère qu'on aura une longue carrière, on n'aura toujours rien à perdre. Ça, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on n'a rien d'autre à faire à part ça. Si j'arrêterai la musique après un an ou deux ans, je ne sais pas, je ferai rien de ma vie. Rien du tout. Mon père a voulu que je sois fonctionnaire et avocat en même temps et j'ai pas réussi mes études et tout, donc j'ai que la musique. Donc dès que c'est question de musique, que ce soit question de deuxième album ou tournée ou je sais pas, toujours je me dis dans ma tête c'est ma vie. Et si j'arrête ça, j'aurai plus de vie, c'est tout.
Thank you.